Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous allons consacrer cette émission à parler du Japon. Alors, comme vous le savez, ici à l'Institut des Libertés, et pour Charles, l'avenir se projette véritablement en Asie. On a ce fameux axe de Valéry Pierris, qui est 4000 km, en gros un cercle de 4000 km qui serait tracé autour de Hong Kong. Et dans cette perspective asiatique, bien évidemment, le Japon a sa place. Toutes ces semaines, nous avons lu, çà et là, sur les différents réseaux sociaux, combien le Japon, c'était absolument horrible. Nombreux sont les commentateurs qui aiment justement rappeler la dette du Japon, rappeler aussi que le Japon a une population qui va en déclinant, ce qui est vrai, et qui, dès lors, nous explique que le Japon est au bord du gouffre et que le Japon va mourir dans d'atroces souffrances. Simplement, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que commençons par écarter les faits. Et là, Rousseau a un peu tort, encore une fois, c'est-à-dire que nous, quand nous nous attachons, comme souvent à l'Institut des Libertés, au contraire, à regarder les faits, nous ne trouvons pas du tout les mêmes conclusions. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui comme leçon. Pour certains qui voudraient peut-être une entrée en matière dans cette question du Japon, nous avions commis une émission il y a 2 ans sur ce qu'était le Japon dans sa structure mentale, dans sa façon de faire, ce que nous allons émailler au fur et à mesure de cette émission. Mais nous allons revenir sur les fondamentaux aujourd'hui du Japon, revenir sur cette question de la dette, parce que évidemment elle est centrale, et, ma foi, rappeler les faits. Parce que ça n'est pas, encore une fois, en écartant les faits, qu'on arrive à faire, en tant que financier, des analyses structurées. Voilà. Alors, Charles, pour
Ben, je
toi,
rappelle.
déjà, quelle est la première question autour de cette dette dont on nous fait grand cas à propos du Japon?
Ben, je vais essayer de vous expliquer comment les chiffres du Japon sur la dette, etc. Mais je voudrais rappeler avant de commencer une phrase de Keynes qui était quand même toujours un grand économiste et un grand humoriste. Il disait, ce qu'il y a d'embêtant avec les marchés, c'est qu'ils peuvent rester irrationnels plus longtemps que je ne restais solvable. C'est-à-dire que vous prenez une position parce que ça a l'air bien, et puis vous vous retrouvez perdant votre culotte parce que ben, les marchés continuent à jouer, etc. Donc dans ma carrière, qui est, ben, comme vous le savez, assez longue, vous n'avez qu'à me regarder, à peu près tous les ans, peut-être un peu plus, peut-être tous les 18 mois, il y a quelque chose de complètement idiot qui se passe dans les marchés. Et vous vous dites, c'est tellement idiot que vous avez la trouille d'acheter ou de vendre. Vous voyez ce que, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te dis, mais c'est moi qui comprends rien.
Oui.
ou alors il faut que je m'embourre, quoi. Tu vois, c'est à peu près ça le. Et donc, le Japon est dans cette configuration depuis à peu près 6 mois. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans les marchés, c'est que les commentateurs de marché trouvent toutes les raisons possibles pour justifier cette position impossible.
Oui.
Tu vois, donc il crie au loup alors qu'il n'y a pas eu de loup depuis la nuit des temps et tout et tout. Donc je vais essayer de vous montrer ce qui se passe au Japon et la différence qu'il y a entre la réalité du Japon et la perception que vous donnent les commentateurs du Japon. Tu vois, c'est un peu. Donc je vais vous dire voilà quels sont les faits. Alors on va commencer par le premier graphique qui va apparaître sur votre écran, qui s'appelle le PIB japonais, variation annuelle moyenne sur 7 ans. Donc, il est vrai, vous voyez ça, c'est donc le PIB japonais en moyenne sur 7 ans, on passe en nominal de 6% de croissance par an à négatif dans les années 2010, 2012, etc. Donc, grosso modo, de 2002 à 2016, le Japon voyait son PIB nominal baisser en moyenne depuis 7 ans. Tu vois, c'est quand même. Mais ça, c'est fini depuis 2015-2016, quoi. Ils ont une croissance aujourd'hui de 2,28% en moyenne sur les 7 dernières années, ce qui est très, 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 très bien. Donc, il y avait toutes les raisons de s'alarmer sur une déflation des pressions au Japon de 2012 à 2016. Mais maintenant, ben, les rentrées fiscales doivent être excellentes, donc on en parlera d'ailleurs. Donc, première raison, ben, le Japon, par exemple, a un taux de croissance beaucoup plus fort maintenant sur les 7 dernières années que l'Allemagne. Et sans doute que les États-Unis. Donc, je regarde ça, je me tiens donc. Ils sont pas dans une trapadette. Voilà, tu vois. Bon. Deuxième chose, tu te dis, alors quelle est la, puisque le yen s'est pété la figure, quelle est la situation extérieure du Japon? Est-ce qu'elle est leur balance commerciale ou bon? Alors, le deuxième graphique que je vous montre, qui s'appelle taux de change effectif et compte courant du Japon. La ligne bleue, c'est ce qu'on appelle le taux de change effectif. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de change effectif? C'est une invention des économistes qui est pas bête. Vous connaissez tous la parité des pouvoirs d'achat, tu sais.
La PPA.
La PPA, le prix du McDonald's à Tokyo et à...
Qui est la raison pour laquelle, parce que j'aimerais revenir sur ça aussi, à l'origine de l'origine, il y a 18 mois, nous avions dit d'acheter du yen, parce que si nous regardons la parité des pouvoirs d'achat du yen comparé à d'autres monnaies, le yen est très très sous-évalué.
Je vais le montrer aussi. Mais alors là, vous faites une espèce de moyenne pondérée en fonction des exportations et des importations des PPA de tous les pays avec qui le Japon commerce. C'est les banques centrales qui font ça. Et ça vous donne la ligne bleue. Vous voyez, qui est là. Donc la ligne bleue qui monte, ça veut dire le yen qui baisse contre tout le monde. Donc, qui baisse, voilà. Et la ligne rouge, c'est les comptes courants, la balance commerciale, en quelque sorte, du Japon, 2 ans après. Bah, vous voyez que c'est une bonne vieille relation. Qui existent pour à peu près tous les pays, quand taux de change baisse, la balance commerciale s'améliore. T'importe moins et t'exporte plus. Bon. Et ça veut dire que dans 2 ans, si la relation se maintient, dans 2 ans, le Japon aura des excédents de ses comptes courants du PIB de 6%. Ce qui est monstrueux.
C'est énorme.
C'est monstrueux, 6%. T'es là, mais tu te dis, mais... Et tout le monde t'explique que le yen va s'écrouler. Mais tu dis, mais attends une seconde, là, je comprends.
Alors que, littéralement, on est en train de voir un tas d'or de Picsou. C'est-à-dire, la balance commerciale croît. Ils ont un excédent des comptes courants, c'est-à-dire, c'est vraiment Picsou qui est dans son or.
Mais alors,
or,
ils prennent leur pognon qu'ils gagnent à l'étranger, ils vont vite le réinvestir à l'étranger.
Oui.
C'est pour ça que le yen baisse.
Oui, mais
c'est
en attendant, ils ont le tas d'or de Picsou. Ils nagent dedans.
Ils nagent dedans, tant que c'est tout à fait étonnant. Bon, alors j'ai dit, bon.
Alors, on nous dit, le yen va s'écrouler. Tu dis, mais ils sont en train de nager dans le pognon, les gars.
Voilà, alors regardons, continuons, donc je continue, je regarde, bon. Alors je regarde les profits des sociétés, puisque le Japon va faire faillite, les profits des sociétés doivent être lamentables. Ben, avec le taux de change effectif, tu sais, le même que tout à l'heure. Bon, mais quand le taux de change effectif baisse, c'est-à-dire quand le yen dévalue, les profits des sociétés montent. Donc tu vois la relation entre les profits des sociétés et le taux de change, dans le premier graphique en haut. Et là, je mets R égale 0, moins 0,83. C'est-à-dire que le taux de corrélation, 83% de la hausse des profits, peut être expliqué par la baisse de la monnaie. Tu vois, c'est ce que ça veut dire, ce qui est énorme. Donc tu te dis, bon, ben, ils sont tranquilles pour les 2 ans qui viennent pour leur profit, parce que quand bien même le yen montrait aujourd'hui...
Il est de toute façon tellement sous-évalué
que pendant 2 ans...
Voilà. Et très souvent, on rappelle que les monnaies asiatiques font cela délibérément parce que ça leur permet
d'exporter plus, d'avoir des balances commerciales, etc. Alors, en dessous, dans le même graphique, je mets le cours des actions avec les profits. Et vous remarquerez quand même, ce qui n'est pas une grande nouvelle, que du coup, le marché des actions est beaucoup monté, et exactement comme les profits.
Oui.
Donc, si je comprends bien, la balance commerciale va être en excédent de 6%, les profits des sociétés sont à un plus haut historique, et le marché des actions est à un plus haut historique. Ce qui ne semble pas indiquer qu'il va y avoir une crise des paiements quelque part.
Le problème pour l'investisseur tiers, c'est que moi, mon frère, par exemple, avait acheté des actions japonaises, à titre personnel, mais quand ensuite vous devez changer de vos yens en euros ou en dollars canadiens ou ce que vous voulez, vous perdez...
Le programme, le yen a baissé, vous perdez, mais ça fait...
Mais dans l'absolu, si vous êtes un investisseur japonais, vous, au contraire,
vous gagnez
quand même de l'argent en bourse, ce qui, en général, est la preuve d'un marché satisfaisant. Action capitaliste satisfaisante.
Donc, les profits des sociétés montent beaucoup. Alors, je passe au graphique suivant, qui s'appelle « Profits des sociétés et déficit budgétaire primaire ». Alors, vous savez que le déficit budgétaire primaire, c'est le déficit hors paiement des intérêts sur la dette existante. C'est-à-dire, c'est... C'est la différence entre tes recettes et tes dépenses, moins les intérêts que tu dois payer. Alors tu vois quelque chose de... Tu te dis, bon, les profits des sociétés montent beaucoup, c'est ce que j'ai montré dans le graphique là en haut, et les profits des sociétés, en pourcentage du PIB, c'est la ligne bleue qui est là. Et la ligne rouge, c'est le déficit budgétaire en pourcentage du PIB que vous voyez sur l'échelle de droite. Donc, j'ai découvert une relation absolument inouïe. Quand les sociétés vont bien, les profits montent, le déficit baisse. Parce que ben, ils payent des impôts, c'est corneau. Quand les profits baissent, le déficit augmente, tu vois, tchac, 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 tchac. Et aujourd'hui, le déficit primaire du Japon, qui est en train de faire faillite, comme chacun le sait. Hein,
tu oui,
sais,
oui, oui, ils sont en train de mourir dans la rue, tout le monde.
Ils sont en train de mourir dans la rue. Atteint le montant gigantesque de 0,7%. Je vous signale qu'en France, le déficit primaire est à 5%. Oui. Donc, ils sont à 0,7%. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment à l'équilibre. Tu te dis, mais attends. Et en bas, la petite ligne noire que vous voyez, c'est le service de la dette.
Oui.
Qu'il faut rajouter pour avoir le total, ce qui vous donne un déficit total pour le Japon d'à peu près 2% du PIB.
Notons comme le service de la dette qui était à 3,5%. Est passé à 1.
Oui, donc, ça veut dire que ce pays qui, d'après les commentateurs, a un problème de dette, va s'effondrer, etc., a un déficit total d'à peu près 1 ou 1,5% contre la France qui est à 5%, sur lequel il faut rajouter les taux d'intérêt, quoi. Tu dis, moi, pas bien comprendre, là, que pourquoi toute cette excitation? Pourquoi m'explique-t-on que le pays va faire faillite? Ben, la réponse est chez Vétro. Alors, on continue doucement. Alors, pourquoi le yen a-t-il baissé? J'en sais foutre rien. Mais c'est sans doute parce que les Japonais ont pris tout l'argent qu'ils gagnaient sur l'extérieur et ils l'ont réinvesti vite fait à l'étranger.
Oui, alors ça, c'est quelque chose sur lequel on doit s'arrêter 2 minutes. On vous en avait parlé dans des émissions antérieures et effectivement, si vous êtes un placeur japonais, la fameuse Madame Watanabe, qui est l'équivalent de la veuve de Carpentras, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Traditionnellement, au Japon, même des personnes de la vie civile ont l'accès aux capitaux extérieurs et ont pris l'habitude de placer leurs petites économies, leurs retraites. Ils ont des systèmes qui ne sont pas du tout étatisés autant que les nôtres et donc ils ont cette facilité à aller placer leur argent extérieur.
Nomura, etc., leur a fait des fonds américains obligataires, des fonds australiens obligataires. C'est très facile, ils achètent.
Ils le placent absolument partout. C'est-à-dire que les Japonais, aujourd'hui, dans tout cet argent qu'ils gagnent, vont le placer en obligation du trésor américain, en obligation du trésor français, en obligation du trésor allemand beaucoup, et beaucoup, beaucoup d'or. Donc aujourd'hui, il faut bien voir que les positions extérieures en or, en obligation du trésor, en obligation française, sont détenues pour grande partie par des Japonais. Ils ont des réserves de change absolument
La position
incroyable.
Extérieure du Japon est la plus créditrice au monde. Il n'y a personne qui a autant d'actifs à l'étranger.
Voilà, ils ont des sous partout dans le monde. C'est-à-dire, quand on vous dit le Japon est au bord de la faillite, mais il suffit qu'ils réintègrent tous les sous qu'ils ont mis dans toutes ces petites cachettes partout, mais ils ont tout ce qu'ils veulent.
Voilà, alors regardez par exemple ces sous, comme dit Emmanuel, qui sont à l'étranger. Ben, regardez la ligne rouge, c'est la rentabilité de ces sous à l'étranger en yens. Ben, vous voyez que vous êtes passé de 8 trillions de yens en 2004 à aujourd'hui 41 trillions de yens.
C'est gigantesque, ce 41 trillions, je veux dire, on ne sait même pas.
41 trillions, ben vous devez diviser par 100 pour trouver les dollars, ça doit vous faire je ne sais pas combien. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Moi, quand ça arrive au-dessus de 2 trillions, j'ai du mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le pays au monde qui a la position extérieure la plus importante. Donc, si d'un seul coup, les Japonais se disent « Bon, j'ai gagné plein d'argent à l'extérieur, je vais les rentrer », c'est là, c'est pour ça que je dis que le yen est une société, est un actif antifragile. C'est que si les marchés se pètent la gueule à l'extérieur, Madame Watanabe va arrêter d'acheter, en tout cas. Et à ce moment-là, le yen va remonter comme une fusée. Donc, le yen a cette caractéristique curieuse. Quand les marchés se pètent la gueule, dans le reste du monde, le yen y monte. C'est pour ça que je dis que c'est un actif antifragile. Dans un portefeuille, tu le colles, t'attends pas grand-chose, mais c'est un peu ton assurance. Si ça pète, lui va monter, et pendant que les autres se pètent la gueule, c'est qu'il te fera un truc qui marchera bon. Donc, tout ça, c'est... Alors, pourquoi le yen s'est-il pété la figure? La réponse est, je sais pas trop, mais c'est que certainement, les Japonais ont énormément de pognon qu'ils ont mis à l'extérieur parce qu'ils n'étaient pas assez rémunérés à la maison. C'est-à-dire, je mets ici la ligne bleue, c'est le yen contre le dollar. Hein. C'est le yen contre la chute du yen. Je ne sais plus si c'est le yen. Oui, c'est le dollar. Donc, vous voyez, et la ligne jaune, c'est la différence des taux entre le dollar et le yen. Vous voyez que la Banque du Japon maintient les taux courts à 0,5, alors que l'inflation est aux alentours de 2 ou 2,5.
Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que au Japon, la banque centrale, la BOJ, s'est toujours donné beaucoup de mal pour foutre en l'air l'économie. Alors, elle l'a fait de façon absolument prodigieuse dans les années 2000.
Elle a commencé en 90, où voilà. Elle n'a pas baissé les taux quand il fallait les baisser. Là, elle garde les taux trop bas quand il faut les monter. Donc, si vous voulez, elle a une capacité assez rare à donner raison à Milton Friedman qui disait toujours qu'il fallait supprimer les banques centrales parce que ça servait à rien, quoi, ou que c'était pire que tout.
Donc là, en ce moment, elle refuse de monter ses taux courts. Elle a un petit peu, en décembre, remonté ses taux, mais le marché l'avait tellement anticipé qu'en réalité...
Et puis 0,5 alors que les taux d'inflation sont à 2,5. Alors, ce qui s'est passé en même temps, c'est que tous les autres pays montaient leurs taux. Tout le monde était à zéro en 2000, pendant la crise du Covid, là, 2020, 21-22. Puis en 22, l'inflation est arrivée. Paf! Tout le monde a monté ses taux, mais le Japon a décidé de ne pas les monter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde empruntait des yens pour aller se mettre ailleurs, et le yen s'est écroulé. Donc, il y a probablement une position spéculative, short, monstrueuse sur le yen.
Oui, mais bien sûr. Alors, vous avez sûrement entendu parler, c'est le fameux carry trade, c'est-à-dire que des gens achètent, revendent, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui entretiennent des positions spéculatives sur le yen, et ce qui veut dire qu'un jour, s'il y a un bain de sang, ça sera sûrement vers là que ça se passera.
Alors du coup, ça a amené le yen, et on y arrive, donc c'est parité des pouvoirs d'achat yen-euro. Et alors, bon, la parité des pouvoirs d'achat, c'est la ligne noire qui se balade aux alentours de zéro, tu vois. De temps en temps, le yen est surévalué, de temps en temps, il est sous-évalué, comme aujourd'hui. Et la ligne jaune, c'est le taux de change de marché yen-dollar, bon. Non, puisque c'est à 185, c'est le yen-euro, pardon. Et la parité des pouvoirs d'achat, je l'ai calculée d'une façon un petit peu spéciale cette fois-ci, là. J'ai pas pris l'indice des prix, j'ai pris l'indice des prix à l'exportation du Japon contre l'Allemagne, en partant du principe que les Japonais et les Allemands faisaient les mêmes produits. Donc je me suis dit, je vais mesurer contre le principal concurrent du Japon, quoi, l'Allemagne. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le yen est sous-évalué de 35% par rapport au Deutsche Mark. Je ne voudrais pas être un constructeur de bagnole en Allemagne. Bon, mais vous voyez la ligne jaune qui monte comme ça. Donc la ligne jaune commence à baisser quand elle aurait dû baisser. Et puis là, à partir du moment où ce brave Trump se met à dire des bêtises sur les droits de douane, etc. Paf, le yen remonte, le yen baisse comme une fusée à nouveau. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que, une différence de cette nature, 35-40% entre deux grandes monnaies exportatrices, je crois pas avoir jamais vu ça. C'est-à-dire, si je suis dans le truc que je disais tout à l'heure, c'est tellement gros, que tu te dis, j'ai dû rater une marche, j'ai dû me tromper, et qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est le moment où tu te poses des questions, en disant, bon, ben, je l'ai acheté là, ce qui était une bonne idée, il a commencé à monter, puis d'un seul coup, paf, il repasse à la baisse, et qu'est-ce que je fais? Eh ben, ce qu'on fait, nous, ce qu'on a dit aux gens de faire, ce qu'on fait en ce moment, c'est dire, bon, vous avez des yens que vous avez achetés, qui sont pas chers, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter des obligations longue au Japon avec... Donc, la recommandation qu'on fait à nos auditeurs, c'est de dire simplement, vous avez du yen en cash, comme ça, c'est une recommandation, en disant, ça paraît logique, si vous avez de l'argent en cash en yen, ben maintenant, vous prenez ce cash et vous le mettez dans une obligation à 10 ans ou plus au Japon. Pourquoi? Ben, je vais essayer de vous expliquer ça en prenant des graphiques assez simples. Qui regardait le rendement du 10 ans japonais et court d'un zéro coupon. Voilà. Alors vous voyez, ici c'est pas difficile, c'est à zéro coupon, c'est une obligation que vous achetez, vous touchez pas de coupon, mais elle montera du prix où vous l'avez acheté à 100, ce qui vous donnera le même rendement que si vous touchez des coupons. C'est-à-dire que, par exemple, si les taux d'intérêt sont à 6, vous achèterez votre obligation à 10 ans, à peu près à 50, et ça passera de 50 à 100. Tu seras remboursé à 100, mais tu ne toucheras pas des petits intérêts tous les ans. C'est simplement la hausse du... Donc, vous voyez, du sur le graphique qui paraît un peu compliqué, mais qui ne l'est pas, le prix du zéro coupon à 10 ans chinois, pardon, japonais, qui est la ligne rouge, et à gauche, vous avez le taux d'intérêt, à droite, pardon, et vous avez le taux d'intérêt sur ce... Donc, vous voyez que les taux d'intérêt qui étaient à zéro au Japon, donc vous regardez la ligne rouge, l'horizontale, non, ça vous donnait un zéro coupon à 100. Ben, parce que vous n'avez pas d'intérêt, donc si vous achetez à zéro coupon en 10 ans, il était à 100, puis vous retouchez à 100 dans 10 ans. C'est-à-dire que c'était pas une très bonne idée.
Avec de l'inflation, c'est pas de la super idée.
Ça. C'est pas la super idée. Donc là, on a dit pas d'obligation, pas d'obligation, pas d'obligation. Mais voyez, la gamelle qui a pris le zéro coupon, il est passé de 100 aujourd'hui, mettons, à 80. C'est-à-dire qu'il a baissé de 20% le zéro coupon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt au Japon sont sur le taux de croissance du Japon. C'est-à-dire que on est revenu à une situation normale pour les taux longs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que donc vous retrouvez, vous prenez le graphique qui s'appelle la règle d'or au Japon. C'est une règle faite par Maurice Allais. Vous voyez que la ligne rouge, c'est le taux de croissance sur 7 ans. La ligne noire, c'est les taux à 10 ans. Vous voyez qu'on revient toujours dessus. Il y a une grande période où la Banque centrale fait n'importe quoi, les taux restent trop élevés. Puis ils sont trop bas. La ligne de la noire en bas, c'est l'endroit, c'est la différence là où ils devraient être, là où ils sont. Et vous voyez que maintenant, ils sont revenus parfaitement normaux. C'est-à-dire que la panique au Japon a amené les taux d'intérêt là où ils devraient être si tout était normal. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les acheter. Mais maintenant, tu le fais non pas avec une monnaie qui était sous-évaluée, ce qui était déjà une bonne idée, mais avec une monnaie qui est très sous-évaluée. Donc tu achètes un actif à son prix normal avec une monnaie qui était 40 ou 50% sous-évaluée. Ben pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quel est le problème? Donc, ce que je dis aux gens, c'est, ben, écoutez, vous êtes gentils tous, là, mais je regarde le Japon. La dette est en yen. La dette est détenue par des Japonais. 95% de la dette est détenue par des Japonais. La banque centrale japonaise en détient elle-même 50% de la dette, c'est-à-dire que en fait, la trésorerie japonaise, le ministère des Finances, doit du pognon à la Banque centrale. Mais...
Donc c'est très important ce que tu dis, parce que c'est souvent une différence qu'on pointe du doigt, c'est-à-dire qu'en France, chez nous, et bon, on va laisser les États-Unis de côté puisqu'ils ont le privilège du dollar, mais... En France, chez nous, la dette est détenue, on l'a vu, par des grands fonds de pension, par des pays tiers.
À 60%, à 40% à peu près par les Français, ce qui est très bien, et à 60% par des étrangers.
Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez une vulnérabilité vis-à-vis d'autrui, puisque autrui détient votre dette. En termes de souveraineté, on peut se poser la question. Le Japon est dans une situation très différente, puisque ce sont des Japonais, donc ça veut dire que quelque part... Pour prendre les classes d'axes sociologiques, les boomers japonais détiennent la dette et les générations, peut-être les générations Z, les millennials, sont quelque part les débiteurs aujourd'hui. Donc, si jamais, à un instant T, on voulait réconcilier ces écritures, puisque c'est une comptabilité en partie double et quelqu'un détient le passif face à un actif, quelque part, ça ne serait qu'une situation interne. C'est un peu votre grand-père vous a prêté des sous.
Pour acheter une maison.
Voilà. Et donc, vous devez de l'argent à votre grand-père, mais est-ce que c'est très grave puisqu'on est en famille? Alors, ça serait désagréable pour certains grands-pères, mais ça reste une activité familiale.
Et en plus,
familiale.
Comme les Japonais sont bourrés de dettes, les vieux Japonais, puisque c'est eux qui ont acheté la dette. D'abord, ils ont des actifs à l'étranger, et ensuite, ils vont claquer. Donc, ils vont payer les droits de succession.
Oui, donc il va y avoir un transfert, déjà, bon, vers
l'État. Par la mort. Donc, le fait que le Japon est une mauvaise démocratie veut dire que sa dette... est plus... C'est comme je dis toujours aux gens, il faudra encourager les gens à fumer, comme ça on n'aurait plus de problème avec la sécu, quoi. C'est la même idée, tu vois. Ils vont claquer, ils vont donner une partie de cet argent au gouvernement et tout va bien, merci. Donc, je me dis, ben, il y a un actif aujourd'hui qui est complètement sous-évalué. Vous prenez par exemple une obligation allemande, qui était quelque chose de sérieux. Bon.
Dans le temps où on avait des bonds.
De 1970 à peu près à 2015, vous faisiez le ratio entre la rentabilité totale d'une obligation allemande pour un Français et d'une obligation yen, vous voyez que c'était une grande horizontale et que ça bougeait assez peu. C'était, les deux monnaies étaient sérieuses, donc ça, vous aviez, si le yen était survalué de 10%, vous achetiez du Deutsche Mark, si le yen était survalué, tu faisais le contraire. Donc c'était un truc de trading comme ça qui marchait très bien, qui était à 100 pendant 40 ans. Et depuis 2015, ce 100 est devenu 35. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une obligation japonaise est à 35% de ce qu'elle était dans le temps par rapport à une obligation allemande, à cause de cette panique. C'est-à-dire que Mataro Watanabe, si elle a acheté des obligations allemandes, elle peut maintenant les vendre et acheter trois fois plus d'obligations japonaises. Mais c'est ce qu'elle veut faire.
Ah, bien sûr.
Je ne sais pas quand elle va le faire, mais elle ne peut pas ne pas le faire. Et le même raisonnement se fait pour l'or. Donc tu te dis, ben, les Japonais ont maintenant, Madame Watanabe et les grandes sociétés japonaises, ont maintenant des profits latents qui sont absolument gigantesques. Et je n'aurai rien de ce que les Japonais détiennent. C'est-à-dire que je dis, par exemple, aujourd'hui, il y a un risque qui est en train d'apparaître sur l'or. C'est que les Japonais, si vous avez acheté de l'or, mettons avec des euros, en 2012, allez, ou 2013, vous êtes passé de 100 à 270. Madame Watanabe, qui les a achetés en yen, elle est passée de 100 à 400. Donc, elle a la moitié de ses gains qui est la baisse du yen. Ben, elle va se dire, c'est cornu ça. Il faut que je vende des euros contre le yen pour capturer la totalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est en train de se mettre en place. Et si le yen se met à monter, à ce moment-là, l'inflation va s'écrouler au Japon.
Donc oui, alors c'est un autre problème. C'est-à-dire que je t'ai souvent entendu dire que quelque part, le Japon, c'était deux vaisseaux séparés. Il y avait le vaisseau des entreprises et le vaisseau des consommateurs, des petites gens. Et quelque part, la Banque centrale, normalement, devait réconcilier un petit peu ces deux univers. Depuis un moment, on a fait la part belle aux entreprises, puisque maintenir un yen bas, ça veut dire des facilités d'exportation qui étaient aussi poussées parce que le renminbi, donc, qui est juste à côté, le yuan des Chinois,
était très compétitif,
ainsi que nombre de monnaies asiatiques. Et les Asiatiques, il n'y a pas besoin de les pousser très fort depuis 2008 aussi pour lancer des monnaies sous-évaluées. Ça fait partie de leur culture. Alors que
ils sont tous un petit peu mercantilistes. Hein. Ils aiment bien avoir des excédents extérieurs parce qu'ils aiment bien avoir leur souveraineté.
Et nous avons complètement perdu, nous, cette vision. Le nombre de fois où j'entends sur les réseaux sociaux me dire « Ah, c'est formidable, l'euro est une monnaie forte », comme si, encore une fois, comme disait Mme Thatcher, votre virilité se mesurait à votre euro fort. Il n'y a rien de plus stupide qu'une monnaie qui est tenue
la
par la...
La monnaie doit être à son prix.
Elle doit être à son prix légitime, son prix qui correspond
à la politique économique, à
l'économie réelle. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un euro fort pour vous protéger de je sais pas quoi. C'est complètement stupide. Vous vous retrouvez sinon avec une dichotomie entre votre économie réelle et votre soi-disant monnaie forte, ce qui est stupide.
Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous favorisez les rentiers et vous défavorisez les entrepreneurs, puisque les rentiers bénéficient de la monnaie forte, ce qui leur permet d'apporter beaucoup. Et les entrepreneurs, ben, ils prennent la hausse de la monnaie forte dans leur marge de bénéficiaire, qui baisse, et ils virent les gens.
Crée de la croissance, nous le savons, les entrepreneurs, ça n'est pas les rentiers, et il n'y a jamais de relance par la consommation, donc surtout pas dans un monde mondialisé. Donc votre idée qu'une monnaie forte qui va permettre aux rentiers de dépenser plus, c'est formidable, on se retrouve avec des Gaulois qui crapahutent au Costa Rica, mais c'est pas forcément
c'est
pas ça.
Et c'est vrai,
qui,
en plus, il y en a
plein. Qui va tenir votre économie par le haut. Si vous voulez avoir une économie qui est tenue, il faut au contraire avoir une monnaie sous-évaluée qui va permettre à vos entrepreneurs de balancer du Bordeaux de par toute la planète et du cognac et de l'armagnac. C'est comme ça qu'on y arrivera.
D'ailleurs, merci beaucoup. Je vais lui écrire un petit mot. Il y a un monsieur qui nous a envoyé une bouteille de cognac, pas possible, très très belle, pour nous remercier.
De ton grand travail.
De notre travail à tous. Et ça me rappelle quand j'étais un joueur de tennis, que je faisais tous les tournois dans le sud-ouest, à Gimont, à Condon, à Lannemezan, etc., ce qui était quand même des capitales du tennis.
Ça, c'est surtout bien en été, un 15 août.
Un 15 août.
Tu vas à l'Almezan et là, tu comprends véritablement ce que c'est d'avoir
pire,
chaud.
Le pire, c'était Montauban où le club de tennis était entre deux immenses murs en ciment.
Ah oui.
C'est-à-dire que là, il faisait 30 de l'extérieur et 45 en dessous. C'est le seul endroit où j'ai une solution possible. Mais je raconte tout ça parce que les prix dans tous ces tournois, c'était toujours des bouteilles en maniaque. Ce qui chacun sait vous aide à courir, quoi. C'était la potion magique, quoi. Mais donc là, merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Donc je vois que dans le sud-ouest se maintient la tradition d'offrir des bouteilles d'ammoniac ou de cognac aux vaillants sportifs. Mais j'ai été très sensible à cette. Alors donc tout ça pour vous dire, si on essaye de résumer ce qu'on vous dit, on vous dit, il y a un état de panique sur un actif, le yen japonais, qui a été déclenché par la banque centrale, qui maintient des taux d'intérêt trop courts, trop bas, ce qui force l'épargne japonaise à aller s'investir à l'extérieur. Et comme le yen baisse, vous avez toute une série de génies financiers qui empruntent du yen pour acheter des trucs, puisque le yen ne peut que baisser, puisque tout va très mal. Donc, ça, c'est une réalité technique. Bon. Cette réalité technique a amené le yen à des niveaux tellement bas que vous vous dites, il faut que je m'embourre parce que un de ces jours, je reviendrai à la moyenne. Donc les parités des pouvoirs d'achat, c'est ce qu'on appelle une opération qui est basée sur un retour à la moyenne. C'est-à-dire que tu reviens, il y a des trucs qui divergent, tu vois, comme par exemple le marché des actions. Sur le très long terme, fait mieux que le marché des obligations, donc tu peux pas jouer le retour à la moyenne, mais là, les monnaies les unes contre les autres, ça revient toujours à la moyenne. Bon, on a déjà expliqué pourquoi. Donc, au début, on s'est dit, on va juste jouer le retour à la moyenne, et puis, comme les détenteurs d'obligations au Japon n'étaient pas contents du 0 ou du 1% qu'ils avaient sur les obligations, le marché obligataire s'est pété la gueule. Et du coup, maintenant, la partie longue du marché obligataire est très attrayante au Japon. Donc, la seule chose qu'on dit, c'est on change pas d'analyse. On dit, il y a 6 mois, les obligations japonaises n'étaient pas intéressantes du tout. Maintenant, aux alentours de 2, 3, 2, 4 pour le 10 ans, de 3 pour le 20 ans et de 3,50 pour le 30 ans, c'est passionnant parce que vous pouvez maintenant acheter du 30 ans, par exemple, et vous garantir un revenu de 3,5% en yens pour les 30 ans qui viennent, et vous l'achetez à moitié prix. Donc ça veut dire rendu en francs français sur les 30 ans qui viennent. En francs français, pardon, j'aimerais bien qu'il
y ait... On aimerait bien.
On aimerait bien. Rendu en euros.
Tu prends tes désirs pour des réalités.
Voilà, rendu en euros, vous allez vous faire un revenu considérable qui risque de deux fois plus fort que celui que vous allez avoir sur une obligation française similaire.
Ah bah ça c'est évident.
Donc c'est une opportunité tout à fait extraordinaire. Et ce qui me sidère, c'est que, comme je le dis toujours, vous gagnez de l'argent dans les marchés, beaucoup plus avec votre derrière, en restant assis sans bouger, qu'avec votre cervelle. Quoi. C'est ce que disait Warren Buffett, il disait... Quand j'avais envie de faire quelque chose, ce que je faisais d'abord, c'est que j'allais au cinéma pendant quelque temps, dans sa ville là-bas. Là. Pourquoi ? Parce qu'il dit, la plupart du temps, quand j'avais envie de faire quelque chose, il ne fallait pas le faire. Il veut que je ne bouge pas. Quoi. Donc il y a une prime dans les marchés à celui qui ne bouge pas. Et ça ne fait rien, ils sont tous en train de regarder leur écran, t'imaginer qu'ils vont gagner de l'argent dans du trading. Donc je dis aujourd'hui aux Français qui nous écoutent, écoutez les gars, vous avez une obligation d'un pays qui a des excès dans les comptes courants, qui est quasiment à l'équilibre budgétaire, où les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance, qui est quand même la condition sine qua non pour acheter des obligations, avec une monnaie qui est sous-évaluée de 50%, et vous voulez pas prendre de risques, ça me paraît pas plus mal. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est... Pourquoi pas y aller, quoi? Donc la seule chose qu'on dit aux gens, vous aviez des yens, ça n'a pas marché, mais maintenant vous allez transformer ces yens en obligations, donc ça va rester en yens, et vous allez en plus attraper non pas 0% sur le court terme, comme on avait sur le Japon, mais 3%. Et je me gratte la tête en me disant, mais où est l'erreur de raisonnement?
Oui.
Il n'y a pas de problème de dette au Japon, Ils n'ont pas de problème extérieur. Ils ont des réserves monstrueuses en monnaie étrangère, etc. Bon, le pays est vieux, mais enfin, ça, nous aussi, d'ailleurs. Donc, et en plus, comme les vieux vont mourir, ben, ils vont...
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, parce que...
On avait eu
un peu le même raisonnement sur le retour à la parité des pouvoirs d'achat sur le yen en lui-même.
Ils n'ont pas monté les taux, ces corneaux.
Bah oui, donc ma question est la suivante. Est-ce que quelque part, il ne pourrait pas y avoir une extériorité qui empêche la croissance que tu regardes sur les obligations? Est-ce que la Banque centrale pourrait pas faire quelque chose? Est-ce que M. Trump, par une intervention, ne pourrait pas empêcher...
Le yen de monter.
Non, mais c'est-à-dire que quelque chose qu'il ferait, lui, aurait comme incidence de empêcher les obligations de monter. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que des obligations ne montent pas?
Ben, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire, mais il y a de certains, c'est que... Aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a un an et demi, les taux d'intérêt à 10 ans au Japon étaient à 1. Aujourd'hui, ils sont à 3. Donc, je peux te montrer, je t'ai montré le graphique où ça s'est pété la gueule de façon extraordinaire.
Oui, je sais plus où il est.
Bah, il y est. Tu vois, quand tu vois ce graphique, tu te dis, bon, ben, les taux d'intérêt sont au plus haut au Japon depuis 2008. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale refuse de bouger les taux courts, c'est la seule chose qu'elle contrôle, la Banque centrale,
oui,
c'est
les
taux courts.
Parce que les taux longs, c'est pas elle.
Mais les taux longs, eux, ils ont pris leur indépendance.
Bah, bien sûr.
Donc,
Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire sur les taux courts? Elle pourrait...
Si elle les monte sèchement, si elle les monte sèchement, ces taux courts, tous les gens qui ont emprunté au Japon vont être obligés de rembourser à toute allure, parce que ça va leur coûter cher. Et si elle ne les monte pas, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir...
Encore plus d'inflation.
Il va y avoir peut-être encore plus d'inflation, mais si à un moment le yen est tellement sous-évalué, d'ailleurs ça se passe un peu en ce moment, qu'il ne baisse plus, et à ce moment-là, quand le yen ne baisse plus pendant 6 ou 9 mois, l'inflation, qui est à peu près à 2,70 au Japon, parce que le yen a baissé, elle va passer à 1. Donc tu te retrouves avec des obligations où tu toucheras du 3, avec une inflation où tu toucheras du 1, dans
donc
une monnaie
réel,
sous-évaluée.
Ouais, donc en réel, après, bien. Donc,
c'est pour ça que je me gratte la tête, je me dis, j'arrive pas à bâtir un scénario où je vais perdre du fric à partir de ce niveau-là sur les obligations dans une monnaie autre que le yen, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai du mal.
Par ailleurs, si on regarde en géopolitique en essayant d'imaginer les scénarios, nous qui regardons énormément l'Asie, nous pensons par ailleurs que le yuan, le renminbi,
commence à monter.
On a des cours de bourse qui sont tenus de plus en plus et on commence à se dire que dans les monnaies asiatiques, il serait possible, c'est inconditionnel, que le yuan prenne une certaine indépendance et arrête cette politique quelque part déflationniste que la Chine a tenue depuis un moment et laisse enfin péter à la hausse le yuan.
Ça m'en est, mais elle le fera probablement avec des discussions tripartites qui doivent avoir lieu en ce moment entre les États-Unis, la Chine et le Japon, à condition que le Japon accompagne la Chine dans sa remontée.
Voilà. Mais ça voudrait dire que dans ces cas-là, la BOJ agirait aussi de concert et qu'on aurait quelque part une réévaluation des monnaies asiatiques
en bon ordre.
Un peu des accords du Plaza façon
chinoise. Mais les Chinois sont ainsi faits que jamais ils n'accepteront de se bloqués dans un truc légal, c'est-à-dire qu'ils le feront, mais sans formaliser, ils ne s'engagent officiellement à rien.
On l'a vu quand on étudiait les monnaies asiatiques, combien désormais il y avait une sorte de serpent monétaire entre les monnaies asiatiques.
Toutes les monnaies maintenant sont sur le yen. Sauf le yuan. Sauf le yen.
Or, tout ça n'a été concrétisé par rien. On remarque juste, quand on regarde les monnaies, que, tiens, c'est très bizarre, elles bougent plus. Or, avant, il y avait une volatilité absolument dingue entre toutes les monnaies. Ça ne peut pas être un hasard. En revanche, vous ne trouverez aucun commentateur politique, économique ou institut, même en Asie, qui vous dira, oui, bien sûr, ils se sont retrouvés sur un bateau au large des côtes.
Ils ont dit,
pas du tout. Tout ça, c'est fait, visiblement, dans le silence feutré des grandes moquettes qui doivent...
Et voilà, surtout, il ne faut pas en parler, parce que... Donc, Admettons cette hypothèse qui est la mienne depuis longtemps, que l'on va vers une zone yuan. Et elle est confortée parce que je vois aujourd'hui tous ces accords de swap entre les banques centrales qui veulent dire qu'ils n'auront plus besoin du dollar pour trop commercer entre eux. Bon, tout ça, c'est en train de se passer. La question pour le Japon, c'est devient de plus importante, c'est est-ce que je reste un électron libre au risque de ne pas participer politiquement à cette croissance qui est une croissance politique, ou est-ce que je me mets d'accord doucement avec la Banque centrale chinoise et aucun de nous deux n'en parle, quoi. Et moi, je crois que la deuxième hypothèse est la plus probable. Donc, qu'est-ce que je vois dans la réalité? Je vois le yuan qui commence à monter.
Qui semble aussi
indiquer qu'on part dans le bon sens.
Et que politiquement, on serait d'accord.
On serait d'accord. Le yuan commence à monter. Et en même temps, on découvre que le yen est trop bas.
En même temps. Il y a quand même des conjonctions de coordination, là.
Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, ça voudrait dire que quelque part, il y a des gens qui seraient d'accord pour que le yen et le yuan montent ensemble, sans l'avoir dit. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est très.
Et Trump, qu'est-ce qu'il en penserait de ça?
Ben lui, il a besoin d'une réévaluation de ces monnaies-là, si jamais il veut que les États-Unis
restent compétitifs.
C'est évident.
Puisque si on reprend dans l'axe de Trump, dans son
idée... Il veut rebâtir son système industriel.
Alors. De l'intérieur. Donc, il veut, qu'on lui fasse la Fortress America pour qu'on lui casse bien pas les pieds, et il veut relancer l'industrie. D'ailleurs, hier, il y a eu des discussions en disant, oui, désormais, il n'y aura plus d'impôts sur le revenu, et ainsi de suite. C'est-à-dire, quelque part, il table sur cette croissance industrielle interne pour booster son économie et avoir donc des recettes à partir des sociétés et véritablement une économie locale. Donc, effectivement, avoir des compétiteurs extérieurs, que ce soit en Big Pharma, que ce soit ainsi de suite, comme le Japon, qui produisent beaucoup moins cher, c'est pas du tout l'intérêt des États-Unis.
Pas du tout. Donc, alors, c'était leur intérêt quand ils étaient un empire, c'est-à-dire quand tout le monde payait en dollars. Mais à partir du moment où les États-Unis vont devoir commencer à payer eux en dollars et les autres, ils ont dit, si ça vous fait rien, j'ai pas besoin de dollars, je voudrais de l'or.
Oui, sachant qu'ils ont une balance extérieure qui est...
dramatique. Dramatique. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'on va probablement, si tout ça se passe comme on l'espère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une hausse des monnaies asiatiques, ça paraît évident, accompagnée d'une hausse de l'or. Puisque l'or deviendra de plus en plus l'instrument pour solder les balances commerciales. Donc, et qu'est-ce que fait l'or? Il monte comme une fusée.
Mais alors ça me fait un peu peur, parce que au travers de l'histoire, à chaque fois qu'on est revenu à l'or comme balance commerciale, encore une fois...
Oui, mais ça ne sera pas fixé. Ça sera autrefois, c'était les monnaies qui étaient définies en or.
Parce que ça nous a rendu terriblement... Alors, mercantiliste, par le passé, et ça a créé des tas de déflations absolument terribles, comme en Allemagne, qui a amené ensuite Hitler.
Donc, il faut faire très attention, mais là, ça va se passer. Ce seront les banques centrales qui discuteront entre elles en disant, toi, bon, je veux une partie en or, tu peux me payer une partie en obligation américaine, une autre partie en obligation allemande, etc. Donc, elles se dépatouilleront, ça sera, mais en même temps, ça veut dire, je l'ai dit dans une émission avec Finari, d'ailleurs, j'ai dit, si vous voulez que l'or serve à équilibrer le commerce mondial, et s'il n'y a que lui, il faut qu'il soit à peu près à 18 000 dollars l'once. On n'est pas rendu,
Donc
on est en train d'arriver à 6 000, tu vois.
Oui.
Mais bon.
Il était à ça autrefois, en parité relative, il était à ça autrefois?
Non, je fais simplement le ratio entre les dettes.
Des pays?
Des pays, et d'être extérieur des pays, qu'il faut appeler soldés, comme celle des États-Unis, et la valeur de l'once.
C'est intéressant comme calcul, mais je suis certaine que nos auditeurs vont te demander d'aller plus avant dans ce calcul-là pour bien comprendre.
Tu regardes combien il y a de milliards de dollars à l'extérieur des États-Unis qui sont, dans le fond, détenus par des étrangers qui sont une espèce de claim, comme on dit en français.
De
passif.
Oui.
Que les États-Unis doivent au reste du monde, quand et puis tu te dis, tu prends les réserves d'or des États-Unis, et tu te dis à quel niveau les réserves d'or aux États-Unis seraient-elles égales à ce passif. Et j'arrive à peu près à 18 000, bon, c'est un calcul fait sur une arrière d'enveloppe, mais ça donne une idée, donc c'est pas certain, c'est même certain qu'on n'y arrivera pas, mais ça veut dire que Si les États-Unis veulent équilibrer leur commerce extérieur avec en filant de l'or de leurs réserves, c'est à peu près à 18 000 que ça doit aller. C'est-à-dire trois fois plus qu'aujourd'hui.
Bon, alors, ça veut dire qu'on garde bien l'or dans les portefeuilles.
On garde bien l'or dans les portefeuilles. Peut-être pas les Japonais, parce que eux, il est déjà à 8 ou 9 000 au Japon, tu vois ce que je veux dire, en yens.
Oui, oui. Oui,
en
oui,
yens.
Oui, oui,
donc,
oui.
Donc, il peut y avoir un petit pet où les Japonais vendent leur or, parce qu'ils gagnent tellement sur le yen qu'ils se disent, ben, j'ai un double gain, je vais essayer de le. Donc, à ce moment-là, ça peut faire baisser l'or pendant un petit moment. Mais il semble que le monde est en train de se rééquilibrer. Non plus autour du dollar, qui était la monnaie de commerce international, mais autour des accords de swap entre de grandes banques centrales, ce qui fait que le commerce se passe dans les monnaies locales et non plus en dollars, et la différence, les différences de balance commerciale seront soldées au moins en partie en or. Ça semble être le nouveau système qui émerge. Et quand je vois l'or monter comme ça, je me dis, ben, et les monnaies asiatiques commencent à monter, et la discussion sur le yen, je me dis, l'autre partie des discussions, ça doit être, il faut que les monnaies asiatiques retournent à la parité des pouvoirs d'achat.
Oui, pour
avoir une chance de s'en sortir.
Bah, les États-Unis sont obligés de demander ça pour que leur industrie continue à dire
et
quelque chose.
Sinon, l'Europe est morte aussi.
Oui,
comment
mais ça...
tu que l'Allemagne fasse concurrence?
Ça, j'ai envie de te dire, tout le monde s'en fout parce que nous, on est très occupés pour l'instant à l'Europe à passer des lois pour dire que les sachets de moutarde et de ketchup individuels sont désormais bannis. Donc, tant qu'on aura Macron d'un côté qui fait Canada Dry, for sure, et les autres qui sont occupés à légiférer sur la taille des sachets de ketchup,
mais
personne...
pourquoi il avait mis ses lunettes? Il avait quelqu'un
il avait une conjonctivite. Et qui devait
moi,
être
je crois que quelqu'un l'avait tapé à l'avait
alors,
des
peut-être
coups.
Que peut-être que Brigitte l'a mis une droite mais non il avait un début d'œil rouge, il avait des petits vaisseaux, je crois que quand tu prends l'avion très souvent comme
oui, ça
tu peux...
moi ça m'arrivait tout le temps, j'avais l'œil rouge parce qu'il y avait des vaisseaux qui pétaient,
il y a des vaisseaux qui pétaient que tu sais t'as la pression et ainsi de suite, donc ça peut arriver, ou une vilaine conjonctivite, bon voilà, donc
puis,
il avait mis ses lunettes,
la pression, l'absence de cerveau aussi ça fait
les bulles, oui, et donc il avait mis ses lunettes, bon pourquoi pas, peut-être que c'était quelque chose justement comme une conjonctivite, ce que les Américains appellent un pink eye, et dans ces cas-là, c'est assez contagieux, donc ça peut être nécessaire de mettre un petit pansement ou justement de faire en sorte que tu aies pas d'émission
enfin,
extérieure.
Il s'est couvert de gloire en croix avec ses lunettes de Ray-Ban, là, il avait l'air d'un pilote d'avion des années 40, c'était bien. Bon, les gars, donc tout ce que je veux dire, c'est que le monde vers lequel on se dirige, c'est un monde donc qui sera... où le rôle du dollar va baisser énormément, et on est en train de passer dans les réserves de change des banques centrales en dessous de 50% en dollars. Tu vois, si tu prends l'or, etc., t'es pas en train de... Bon. Donc, ça va se passer dans les monnaies nationales, par des accords de swap entre banques centrales, j'ai expliqué ça dans le passé, et avec les soldes qui pourront être sans doute traités soit par des actifs... Par exemple, les Indonésiens pourraient vendre tout ou partie de leur mine de charbon, parce que c'est la Chine qui achète beaucoup de charbon indonésien, qui est le meilleur au monde. Bon, ça peut être des actifs, ça peut être de l'or, ça peut être des obligations américaines que les Indonésiens auraient en trop. Tu vois, il y aura tout d'une façon. Donc, il y aura des discussions qui se passeront sur la façon dont les soldes se feront entre pays. Mais
oui.
Ça peut être que bilatéral.
Oui.
Il peut pas y avoir d'accord international.
Bah non, je vois pas très bien pourquoi, mais de toute façon, ça a toujours été la question qu'on se posait. Pourquoi est-ce que en échangeant entre la Chine et la Thaïlande, il devait passer par le dollar? Et c'était d'autant plus incroyable que, on le sait, ça donne l'extraterritorialité du droit sur le contrat.
Quand ils ont mis ça à partir de 2008, je me suis dit, bon, ben c'est foutu, quoi, c'est fini.
Tu ne peux pas demander à des pays d'avoir juridiquement, de justifier auprès des États-Unis et donc de la CIA des accords qu'ils passent.
C'est vrai que quand le patron d'Alstom, le numéro 2 d'Alstom, avait été aux États-Unis, il avait été arrêté parce qu'il y avait soi-disant des corruptions qu'aurait fait Alstom en Indonésie, et moyennant quoi, il a été libéré 2 ou 3 ans après, à condition qu'on vende Alstom aux Américains, quoi. Donc tu vois, c'était... Il y avait des moyens de pression sur l'appareil industriel français qui étaient...
Tout ça est pas très normal.
Tout ça était absolument pas normal. Donc on va vers un monde beaucoup plus normal. Dans ce monde beaucoup plus normal... on va solder les balances, les différences des comptes courants par des actifs qui peuvent être de l'or, des obligations étrangères, des obligations domestiques, des actifs domestiques. On verra comment ça se débrouille. Mais c'est un monde qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est complètement décentralisé. Mmh. Tu vois, il n'y a plus cette espèce d'énorme centralisation sur le dollar. Ce qui fait que s'il manquait de dollars, tout le monde avait une récession en Asie. Maintenant, s'il manque de dollars, tout le monde s'en fout. Donc c'est un monde beaucoup plus décentralisé, beaucoup, beaucoup plus antifragile. Il est beaucoup moins fragile que le monde précédent, donc il sera moins efficace peut-être, mais il y aura beaucoup moins de chocs. C'est pour ça que je dis aux gens, non seulement on va avoir une croissance pas possible, mais elle va être stable. Tu vois, donc, mais arrêtez de vous casser les pieds avec ce que fait, je ne sais pas quel crétin au Parlement à Paris, quoi. En ce qui concerne les actions françaises de bonne qualité, ça n'a strictement aucune importance. Sur les obligations françaises, sur le franc, sur l'euro, ça a de l'importance, mais sur les obligations... Donc, si vous avez des bonnes obligations françaises, vous êtes tranquille.
Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour sur le yen. Surtout, c'était une émission parce que j'entends beaucoup de bêtises sur le Japon. J'entends beaucoup de bêtises sur le yen aussi. Très souvent sur les réseaux sociaux, comme quoi on est à la veille d'un énorme crack sur le yen et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'il en est. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu encore la chance de regarder l'interview de Charles sur le média Légende, je vous invite à le faire.
700 000 personnes en une journée.
Je tiens à dire par ailleurs que deux mauvais esprits chagrins, comme d'habitude, disent qu'on aurait payé pour y aller. Ça n'est évidemment pas vrai parce qu'il y a deux formules chez Légende. Légende Média, qui est la chaîne YouTube, et puis le Légende Business. Et là, ça n'est pas sur la chaîne YouTube. Pour le coup, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, Charles était invité, comme Sarkozy a pu être invité.
Moi, si j'invite Sarkozy, il peut m'inviter moi.
Tu n'as pas mangé assez de yaourt. et voilà. Donc, on était ravis. C'était une émission géniale. Et donc, je vous invite à la regarder si toutefois, vous n'avez pas encore eu cette chance. En attendant, j'espère que ce petit point vous aura intéressé. On a fait un bon petit tour sur le yen. Et voilà, bientôt, je pense qu'on fera une émission de questions pour voir si vous avez bien suivi.
Et il y aura une interrogation à la fin.
Et on ramassera les copies. Et ce sera noté pour la moyenne du trimestre. Voilà, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.
Merci beaucoup.